Résonance, le lundi à 20h sur Radio G, présenté par Marina Dou.
Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, un moment rien que pour vous et avec nous, c'est Résonance. L'élégance musicale, l'art du métissage. Des vibrations qui nous touchent, traversent notre chair, notre être, au-delà de nos différences. Alors, soyez prêts pour ce voyage, car c'est avec le quartet Choubiao que nous partons ce soir. Un quartet original réunissant 4 musiciens, c'est Choubiao Quartet. Un but en commun, perpétuer la musique traditionnelle de Mongolie à leur manière, tout en valorisant l'héritage culturel, à savoir le chant diphonique et les instruments atypiques. Une musique atemporelle, empreinte de l'histoire, faisant vibrer notre corps et notre âme jusque dans l'invisible. Vincent, bonsoir.
Bonsoir Marine.
Bienvenue dans Résonance.
Merci.
On vous retrouve ce soir avec le quartet Choubiao, dont vous êtes le chanteur et également joueur de basse, guimbarde, flûte sourd. À vos côtés, 3 musiciens de longue route, Choubiao Wang au chant et au morin court, Florent Diarra aux percussions et à la flûte harmonique et Johan Richard aux guitares, bouzouki, mao. Un quartet original, un univers atypique, intrigant, puisque direction la Mongolie. Une musique vibrante, mystique ou mythique qui nous invite dans un ailleurs indescriptible. Alors Choubiao Quartet, c'est avant tout une aventure musicale authentique, une identité forte. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette musique ?
Alors, à titre très personnel, j'ai été fasciné par le chant diphonique mongol depuis assez jeune en fait, depuis que j'ai eu l'occasion de le découvrir. Mes parents écoutaient de la musique du monde et puis après je me suis beaucoup engagé dans des festivals de musique du monde autour de chez moi. Et j'ai eu la chance, en travaillant dans ce milieu-là, de rencontrer des chanteurs mongols. Et effectivement, c'était encore plus fort en live qu'en enregistrement. Et à force de m'y intéresser, eh bien, j'ai rencontré un producteur, donc il s'appelle Johanny Curtet, qui est aussi chercheur et chanteur, et qui m'a conseillé de partir en Mongolie parce que finalement, il m'a dit, tu sais, c'est très contextuel. Si tu veux vraiment répondre à toutes tes questions, le mieux c'est d'y aller. Et puis ensuite, j'y suis allé. J'ai eu la chance de faire plusieurs voyages là-bas, de rencontrer différents chanteurs, et notamment un maître de chant avec qui j'ai pu suivre un enseignement, disons traditionnel, de maître à élève, qui s'appelait Senge Dorje. Et donc ça a continué de finalement d'amplifier cette passion, déjà pour la technique vocale, mais de plus en plus pour le répertoire, les textes, et puis la fonction sociale du chant, le contexte dans lequel il s'inscrit, voilà, donc finalement global. Et puis j'ai ensuite transmis beaucoup et finalement j'en faisais pas grand chose au niveau scénique jusqu'au jour où j'ai rencontré Choubiao à Grenoble, qui lui vient de Mongolie intérieure, qui est la partie chinoise de la Mongolie, et qui a étudié le Mulin Rur, c'est la vielle à tête de cheval, et le chant diphonique depuis sa jeune adolescence, et qui est venu en France pour suivre des études et puis pour travailler. Et on a été mis en contact par des gens qui se sont dit que ce serait intéressant qu'on se rencontre, et effectivement ils ont bien fait, parce que tout de suite on s'est trouvé des envies communes, des passions communes, et on a commencé à faire un petit duo comme ça, et voyant que ça fonctionnait bien à la fois entre nous et à la fois vis-à-vis du public, ben on a décidé de recruter des musiciens expérimentés pour avoir une musique avec un peu plus de puissance et puis des possibilités d'arrangement aussi améliorées. Et donc c'est comme ça qu'on a fait appel à Florent Diarra, qui est un percussionniste avec une grande carrière derrière lui, notamment qui a été pendant une quinzaine d'années percussionniste d'un groupe qui s'appelle Djembe, donc de djembé, didgeridoo, qui a eu ses heures de gloire au moment de l'avènement de la trance acoustique. Et puis Johan Richard, qui est un producteur de musique électronique, produit par Adra Records, donc plutôt dans une esthétique trance. Et donc tous les deux, se sont vraiment impliqués dans le répertoire mongol. Et finalement, chacun maintenant, y met sa personnalité, ses envies. On arrive à faire un son mongol, mais qui nous ressemble à quatre.
On va revenir sur cette spécialité du chant diphonique. Quelles sont ses particularités?
Le chant diphonique, c'est un chant qui vient d'Asie centrale, particulièrement de Mongolie et puis de pays limitrophes, qui est pratiqué par les nomades et qui en fait évoque la relation qu'entretiennent les hommes avec les sons de la nature. Donc par exemple les rivières, le vent, les cascades, le vent dans toutes ses dimensions, lorsqu'il gronde ou lorsqu'il siffle, et puis bien sûr les animaux, à la fois les animaux sauvages et puis les animaux que l'on élève comme les moutons, les chameaux, les yaks, etc. Et on peut retrouver dans chaque technique de chant diphonique une forme d'imitation, parfois plus ou moins éloignée, de ces sons de la nature.
Est-ce que c'est une technique difficile à apprendre parce qu'à la base vous êtes chanteur ? Classique.
Alors c'est une technique. Alors moi je suis chanteur au sens large, pas plus d'un style qu'un autre. J'ai eu quelques cours de conservatoire, mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai vraiment approfondi. En tout cas, j'en ai pas fait du tout de carrière. Et j'ai principalement chanté dans la variété, la chanson française, des choses comme ça. Mais finalement, j'ai été toujours fasciné aussi par les musiques du monde. Je fais beaucoup de polyphonie, que ce soit sarde, géorgienne, corse, etc. Et donc le chant diphonique, c'est vrai que c'est un vrai défi. Parce que ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. C'est une technique vocale qui suppose de tout recommencer depuis le début, en quelque sorte. Et parfois, les gens qui ont vraiment l'habitude de chanter à l'occidental, se retrouvent confrontés au fait de désapprendre avant de réapprendre le chant diphonique. Ça suppose en fait un timbre très particulier qui est guttural et qui suppose donc de presser sur la gorge pour pouvoir générer une voix très riche en fréquences. Et de ces fréquences, on s'amuse avec les résonateurs, la bouche, le voile du palais, les lèvres, la langue, pour pouvoir diffracter le son comme le prisme diffracte la lumière. On arrive à diffracter le son et faire entendre ces strates qui composent le son et qu'on appelle des harmoniques et qui ressemblent à l'oreille parfois comme des sifflements ou des sons flûtés.
Et est-ce que c'est un chant, en fait, au final, propre aux hommes, ou les femmes peuvent aussi le faire ?
Physiologiquement, tout le monde peut le faire, femmes, hommes, enfants. En revanche, traditionnellement, c'est une technique qui est plutôt pratiquée par les hommes. En revanche, aujourd'hui, rien n'interdit aux femmes de le faire, et ça se fait de plus en plus.
On prend conscience que la voix est importante dans la culture mongole. Est-ce qu'elle a une place sacrée ?
J'allais dire, comme dans énormément de cultures, il y a cette dimension de louange qui, du coup, est destinée à ce à quoi l'on croit. En l'occurrence, en Mongolie, on croit à une nature spirituelle dans cette religion qu'on appelle le tengrisme, c'est-à-dire une sorte de chamanisme où, en fait, les forêts, les rivières, les montagnes, etc., ont leur propre conscience. Et donc, grâce à la voix, notamment, on arrive d'une certaine façon à faire don de sa parole, à faire don de son texte, de son histoire. On dit souvent dans toutes les religions que la voix, que la parole est créatrice, que la parole a créé les choses, et d'une certaine façon, c'est peut-être le don le plus sacré qu'on puisse faire. Et donc, je pense que c'est pas anodin que ce soit la voix qui soit le plus représentatif de ces chants de louanges. Parce que quand on est berger, eh bien, finalement, on a déjà assez peu de place pour transporter des instruments, mais bon, au-delà de ça, c'est assez anecdotique. Eh bien, en fait, on est confronté toute la journée aux éléments naturels, que ce soit la force du vent, les difficultés de température, de sécheresse, etc., dans un pays qui est finalement relativement hostile au niveau du climat. Eh bien, voilà, ça permet, grâce à la voix, de rendre hommage et puis de tenter de s'attirer les bienfaits de cette nature que l'on respecte autant que l'on craint.
Et est-ce qu'à la base, cette voix, elle est a cappella ou accompagnée? Est-ce qu'on peut quand même l'accompagner d'instruments?
Oui, tout à fait. Il y a vraiment les deux. Il y a à la fois des mélodies qui se suffisent à elles-mêmes et puis des musiques très élaborées avec des arrangements qui incluent des instruments aujourd'hui même modernes, des percussions, etc. Évidemment, à l'origine, il y a principalement la voix a cappella et accompagnée de cet instrument traditionnel emblématique que joue Choubiao, qui s'appelle le Mölinhur, la vielle à tête de cheval, et d'un autre instrument qu'on appelle le Tofchour, qui est une sorte de luth à deux cordes jouée par les nomades également en Asie centrale.
D'accord, alors votre musique, elle navigue entre tradition et modernité, une fusion audacieuse. Bon, est-ce que vous partez de mélodies mongoles existantes ou bien vous créez complètement quelque chose de différent?
Alors, l'esprit, on tente de garder celui des Mongolies mongoles, même des mélodies mongoles, même quand on compose nous-mêmes. Donc on a vraiment les deux, à la fois on puise dans le répertoire traditionnel, avec des arrangements qui sont parfois relativement proches et parfois très éloignés de la musique initiale. Mais c'est finalement une tradition qui est encore très vivante en Mongolie de reprendre le répertoire traditionnel. Il y a cet enjeu dans une culture qui est orale, eh bien, de faire que la tradition ne se perde pas. Et contrairement à notre tradition qui, nous, est dans les bibliothèques et dont on peut se saisir à tout instant et qui pourrait perdurer encore des siècles si elle était retrouvée par des spécialistes plus tard, eh bien, la tradition orale, si une génération arrête de la jouer, eh bien, finalement, elle se perd. Alors aujourd'hui, on a l'enregistrement qui permet de garder des traces, mais pour que la tradition reste vivante et puis qu'elle ressemble à son époque, eh bien, c'est important que les musiciens s'en saisissent. Et donc nous, c'est ce qu'on fait, à la fois avec de la tradition, des choses qu'on trouve belles, qui nous tiennent à cœur, et puis également, ça nous plaît de composer, parce que c'est vrai que c'est une manière aussi de rentrer nous-mêmes dans cette tradition en tant que compositeur, et puis de faire des choses qui peut-être sont un petit peu différentes, en incluant effectivement des éléments de modernité un peu plus assumés dans cette musique mongole, tout en tâchant, comme je le disais, de garder l'esprit.
Et est-ce que vous observez des similitudes entre la musique européenne et la musique mongole, au niveau rythmique par exemple, ou au niveau mélodique, des choses qui...
Oui, finalement, la musique mongole, au niveau des timbres, peut être un petit peu déroutante, parce que les timbres sont très riches, gutturaux, un peu animaux, etc., et donc peuvent dérouter un peu l'oreille occidentale. En revanche, au niveau des rythmiques et des mélodies, finalement, c'est assez proche. On a une rythmique de battement de cœur, une rythmique de marche, une rythmique de cavalcade, bien sûr, qui sont finalement les rythmiques principales. Et puis au niveau des mélodies, eh bien on utilise quasi exclusivement une gamme qu'on appelle la gamme pentatonique et qui est la gamme qui a été utilisée dans la quasi majorité des musiques traditionnelles de par le monde jusqu'à l'avènement de la musique tonale occidentale, mais qui finalement est relativement récente. Donc ça ressemble à énormément de choses en soi, en ayant bien sûr cette couleur spécifiquement mongole qui se fait, je crois, surtout par le timbre et par les sujets.
Est-ce que vous êtes en 440 Hz ou vous êtes plutôt dans une vibration un peu différente, 432?
Oui, ça là-dessus, il y a beaucoup de théories sur ces choses-là, mais effectivement, c'est quelque chose qui vient, enfin ces théories viennent plutôt de mouvements New Age. On dirait que le 432 serait plus aligné avec la mélodie des sphères, le mouvement des planètes, la vibration élémentaire, ce genre de choses. Mais en fait, on s'aperçoit qu'au niveau de l'émotion qu'on peut ressentir et procurer au public, ça change absolument rien. Ça, c'est quelque chose que je dis parce que ça a été éprouvé. Et voilà. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant au niveau de ces aspects-là musicaux. C'est que, le chant diphonique, dévoile une gamme qui, à l'intérieur d'une seule note, je disais avec la série harmonique, en fait, les sons sont composés de différents harmoniques, une forme d'échelle. Et donc, cette série harmonique, eh bien, elle se rapproche donc de la gamme pentatonique, mais pas exactement. C'est-à-dire que, eh bien, finalement, on joue, en quelque sorte, avec le chant diphonique, des notes qui se situent entre deux notes du piano. C'est ce qu'on appelle une musique qui n'est pas tempérée. Et ça, finalement, cette musique qui n'est pas tempérée, c'est la musique que tout le monde a jouée de tout temps, depuis des dizaines de millénaires. Et la musique tempérée, c'est une invention extrêmement récente, il y a quelques siècles en Occident. Donc, on s'est fait à l'oreille cette musique tempérée, et tout ce qui ne l'est pas nous paraît un peu étrange, mais en réalité, c'est ce non-tempérament, enfin ce tempérament naturel qui est celui que les hommes ont toujours écouté. Et finalement, le chant diphonique est un peu cette difficulté quand on l'intègre à la musique plus moderne, occidentale, avec des instruments qui sont frettés, comme la guitare, qui peuvent pas jouer entre les notes, et bien de devoir s'ajuster pour pouvoir rentrer dans une gamme tempérée. Donc, ce qui fait aussi l'intérêt du chant a cappella et du chant sans instrument parfois, pour entendre de manière un petit peu plus authentique ce son-là. Mais bon, c'est des débats de musiciens qui sont assez subtils, et je crois que finalement le public, que ce soit la musique tempérée, non tempérée, en 432 ou en 440, ce qui compte, c'est certainement plutôt l'évocation de l'énergie qui passe entre les musiciens et le public à travers la musique, et c'est ça qui fait l'intérêt de la chose.
Toujours avec nous et pour vous dans Résonance sur Radio G avec le quartet Chubiao. Sortez votre premier album, Trans-Mongol Express. Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Eh bien, ça représente un premier pied, finalement, dans la grande aventure de l'enregistrement, un premier pas. Et ça nous stimule énormément d'enregistrer, parce que, comme je disais, on a à la fois cette culture traditionnelle, d'où l'on vient ou qu'on s'est approprié, et puis également la culture plus moderne de rajouter des briques, finalement, d'arrangements sur des logiciels de son, et donc l'enregistrement permet vraiment de faire se rencontrer tout cela. À la fois, on peut jouer un air traditionnel et puis par-dessus, tenter des choses, rajouter des sons qui sont du design sonore, expérimenter des rythmiques un peu différentes ou même des instruments électroniques, et c'est l'enregistrement qui permet de vraiment être dans ce jeu d'enfant, d'essayer, d'enlever, de recommencer, de tourner les choses dans tous les sens pour voir comment ça fait. Et c'est vrai que c'est une manière de faire que cette musique nous ressemble aussi en tant qu'enfant du 21e siècle, et de vraiment se l'approprier, et de pouvoir y mettre aussi notre énergie qui ressemble aussi à celle-là. Bien sûr, on n'est pas des bergers mongols, quoi. Donc l'enregistrement, c'est quelque chose qui nous a beaucoup rassemblés, qui continue de nous rassembler, tout autant que la composition. Et donc le prochain album, qui est déjà en route, sera principalement fait de compositions. Voilà.
Alors, dans l'album, on trouve 5 titres assez différents qui se complètent. Est-ce qu'il y a un fil conducteur, un thème en commun ?
Eh bien, en fait, cet album, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on l'a, le thème en commun, c'est vraiment nous, et les choix des chansons, ils se sont faits dans une recherche d'équilibre avec des chansons douces et des chansons rythmées, et puis aussi il s'est fait en fonction des capacités qu'on avait d'enregistrer, parce qu'en fait depuis le début du projet, comme ça a tout de suite plutôt bien marché, ça fait moins de 2 ans qu'on tourne ensemble, eh bien on a fait beaucoup de concerts, on continue d'en faire beaucoup, et finalement le temps qui est consacré à la composition et à l'enregistrement est limité par le fait de devoir répéter et faire les concerts. Et donc on a pris les morceaux qui nous paraissaient les plus envisageables maintenant, de manière à laisser aussi du temps pour faire un deuxième album avec un peu plus de morceaux. Là, on avait besoin d'avoir une actualité pour pouvoir tourner. C'était aussi quelque chose que notre producteur demandait, que le public demandait. Et donc, on s'est dit, voilà, on a la capacité, là, en 6 mois, de sortir un EP avec 5 titres qui soit assez qualitatif. Et voilà, de manière à pas se perdre dans les méandres d'un album qui aurait pu prendre 1 an, 2 ans, à force d'être repoussé à cause des dates. Mais on est quand même très content de tourner malgré tout. Donc voilà, c'est un premier jet. Et puis c'est aussi une forme de signature, c'est-à-dire qu'on a appelé Transmongol Express parce que c'est un petit peu le style qu'on s'est auto-assigné. Et on s'est dit, bah voilà, ça permet de dire voilà qui nous sommes. Voilà à quoi notre son ressemble. Et puis on va continuer dans cette veine-là. Donc vous pouvez garder cette confiance.
Alors, vous évoquez beaucoup le mot trans. Qu'est-ce qui signifie pour vous ? C'est un état qui est lié au son ou à autre chose ?
Alors, en fait, à la fois, moi, c'est quelque chose, je pense, qui est différent pour chacun d'entre nous. Mais je pense que c'est à la fois l'évocation d'un style de musique. Aujourd'hui, on appelle la musique trans, cette musique électronique ou parfois acoustique, qui est en fait fait de répétitions et puis de grandes montées qui ne s'arrête finalement quasiment jamais et qui permettent de rentrer dans une sorte de train-train au niveau de l'esprit, de éventuellement de bouger au niveau du corps en rythme pendant assez longtemps et qui donc fait rentrer dans une pseudo-trance, alors pas une trance dans le sens mystique, mais plutôt quelque chose de doux. Ou alors après chacun peut le vivre différemment, mais en tout cas nous on cherche pas spécialement à créer des états mystiques ou à guérir par la transe ou je ne sais quoi, ça reste de la musique pour le plaisir. Mais moi c'est quelque chose qui m'amuse en quelque sorte parce qu'aujourd'hui la Mongolie est vécue par beaucoup d'entre nous occidentaux comme le pays de la transe justement, où on pourrait aller voir des chamans pour vivre des trucs magiques dans la forêt avec des fumées, etc. Bon, je pense que c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup construit, qui a aussi un imaginaire autour qui est un petit peu parfois éloigné de la réalité. Et donc ce mot de trans, moi finalement j'aime bien le détourner. Donc c'est pour ça que Transmongol Express, qui fait penser à la fois à un train, au voyage, à cette musique trans occidentale, etc., bah, permet d'évoquer cela sans vraiment le prendre au sérieux, parce qu'on sait très bien que Transmongol Express, voilà, c'est pas en écoutant un album que tout à coup on va se mettre à traverser les mondes, quoi. Voilà.
En quelques adjectifs, comment vous décririez votre album, l'univers de votre album ?
Il y a un mot qu'on aime beaucoup, c'est le mot épique. On aime bien finir avec des grandes envolées. Je dirais aussi authentique, parce que vraiment on n'a pas fait de concessions, on a vraiment mis qui on était, et on assume pleinement, on est très fiers de ce qu'on a fait. Et puis, j'aurais tendance à dire puissant, parce que c'est quelque chose qu'on essaye d'incarner quoi, dans cette musique.
Eh bien, on va s'écouter un extrait de Sawarden.
We'll be right back.
musique envoûtante, très marquée rythmiquement. Est-ce qu'il y a un lien avec le titre?
Avec le titre Sawardang ou avec le titre Transmongol Express?
Avec le titre Sawardang.
Sawardang. Alors en fait, Sawardang, c'est un morceau traditionnel qui vient de Mongolie intérieure. Et en fait, alors j'allais dire, c'est même des morceaux traditionnels parce qu'il y a énormément de versions de Sawardang avec des mélodies, des paroles, choses différentes. C'est plutôt un style, d'une certaine façon, qui évoque une danse. Une danse et donc une manière de d'accompagner cette danse. Et donc nous, on a repris cette manière-là et en concert, on évoque en fait avant cette musique-là à travers un conte qui raconte l'histoire d'un jeune berger et de comment il a créé l'instrument qu'on appelle le tofshur et qui accompagne cette danse. C'est l'instrument qu'on entend au début. Voilà. Et donc cette chanson, elle nous dit voilà, la mélodie arrive, la danse se met en place, ça évoque ceci, ça évoque cela. Donc souvent les danses mongoles évoquent la vie quotidienne, les cavalcades, les instants, les moments dans la yourte, les moments de libation, etc., etc.
Comme tout musicien, artiste, vous avez la passion. Est-ce que vous souhaitez transmettre quelque chose de particulier avec votre musique?
Oui, alors après, c'est vrai que ça change un petit peu à chaque fois, mais nous, ce qu'on a envie de transmettre, c'est déjà le plaisir qu'on a à le faire. Mais aussi, pour ce qui me concerne, une forme de densité, c'est-à-dire que j'estime que cette musique, mais aussi beaucoup d'autres, évoquent quelque chose d'un peu archaïque, un peu fondamental, un peu essentiel, qu'il est difficile de nommer, mais qui, je crois, accompagne l'homme depuis assez longtemps. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'elle peut toucher, notamment en live. Et pour moi, ce qui est vraiment le plus important, c'est de rester dans la droiture, dans la dignité, de pouvoir transmettre toujours cet état d'esprit que j'aurais bien du mal à nommer, mais qui nous rassemble en tant que espèce humaine peut-être, et dans un sens un peu anthropologique, quoi, j'ai envie de dire, quelque chose d'un peu tribal, quelque chose d'un peu communautaire, enfin quelque chose qui fait qu'on se sent ensemble, relié, fort grâce à la musique. Je crois que ça a été toujours la fonction de cette musique. Donc si on peut arriver à vivre ça pendant le temps d'un concert, c'est déjà énormément, et si on peut arriver à transmettre, eh bien que on peut y consacrer comme nous une carrière, une vie musicale, et que c'est important, ça peut-être inspirer des jeunes qui auraient envie d'avoir la même vocation, mais tant mieux.
Eh bien merci Vincent d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous retrouve sur toutes les plateformes avec votre nouvel album Transmongol Express, à écouter sans modération.
Merci Marine. Alors, on joue dans pas mal d'endroits, mais peut-être il y a, pour ceux qui sont dans la région de Grenoble, Cabaret Frappé, où là on peut être assez nombreux, donc le 16 juillet au centre-ville de Grenoble. Et sinon, on sera un peu partout en France, on va jusqu'en Bretagne en passant par le centre, on va jusqu'en Ariège en passant par le sud. Vous pouvez regarder sur notre site internet pour suivre toutes les dates de concert jusqu'en 2026.
Et tu peux nous rappeler le site ?
www.shubiaoquartet.com, S-H-U-B-I-A-O.
Eh bien, merci Vincent. On vous écoute et on vous retrouve sur toutes les plateformes et en concert.
Merci Marine.
Résonance, de l'élégance, de l'émotion, des vibrations. On vous dit à bientôt.
Radio G 101.5 FM.